Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Ravie de vous retrouver sur Europe 1. On passe à présent au bon conseil de nos bienfaiteurs. Bonjour Nathalie Le Breton.
Bonjour.
Alors aujourd'hui dans votre chronique lecture jeunesse, on va pimper les grands classiques tout à l'heure, c'est ça ?
Exactement, je vous promets de l'ubuesque, du rocambolesque et de la culture.
Merci beaucoup Nathalie, on vous retrouve dans quelques minutes. Avant ça, c'est le docteur Alexandre Marchac qui a de bons conseils à nous prodiguer. Bonjour docteur.
Bonjour.
Alors on sait qu'il y a de vraies modes hein, pour les vêtements, pour la déco, pour les coiffures, pour tout ce qu'on veut. Mais il se trouve qu'il y a aussi, je crois, des modes en chirurgie esthétique. On peut dire ça, oui, c'est des modes. C'est
comme
ça
oui, qu'on appelle. Oui, il y a des modes. Vous avez probablement entendu parler du fox eye, du Barbie nose, des...
C'est toujours en anglais par contre. Hein.
C'est souvent en anglais.
Fox eye, c'est les yeux de renard.
Fox eye,
hein,
c'est les yeux de renard. Le Barbie nose, c'est un tout petit nez pointu.
De Barbie.
Qui est, voilà, de Barbie. Il y a les Russian lips.
Enfin, ouais. Les
Russian lips, c'est, ça, c'est, lèvres, c'est des lèvres très ourlées et très accentuées, très augmentées. Et puis vous avez le BBL, le Brazilian Butt Lift.
Ah ça, attendez, vous nous en aviez parlé, je crois. C'est quand on se rajoute des fesses, c'est ça ? Non, c'est pas
oui,
ça.
Oui, c'est ça. C'est une technique où on va aspirer toute la graisse au niveau du ventre, du dos,
et
des
on met
cuisses,
tout dans les fesses.
Et on injecte tout dans les fesses.
On peut le mettre dans les seins aussi, hein ?
On peut le mettre dans les seins, mais
ah, j'y connais celle-là.
Ça c'est l'hypofilling des seins. Ça, ouais, c'est effectivement c'est très utilisé, et ça fonctionne bien.
Et c'est à la mode également pour les seins
c'est,
moins.
Alors, c'est pas, il y a pas un phénomène de mode. C'est en chirurgie, nous on l'utilise beaucoup parce que c'est très utile pour les seins. Mais y a, là où il y a vraiment de la mode, c'est au niveau des fesses avec le Brazilian Butt Lift. C'est Kim Kardashian qui a popularisé ça.
Mais on est d'accord qu'il y a des extrêmes parce qu'il y a des BBL. Hein, parce que moi je vois des stories hein, sur Instagram après mon BBL, mais alors on se retrouve avec des fesses énormes. Ça c'est la mode, franchement.
Ben oui. C'est un peu c'est la mode, effectivement. Et alors, le problème, c'est quand ça va dans les extrêmes.
Ouais. Mais dites-moi, c'est les réseaux sociaux, non, docteur, qui créent ça très concrètement. Est-ce que ça arrive, vous, dans votre patientèle, qu'on arrive avec des photos issues de réseaux sociaux en disant « je veux ces fesses-là » ?
Alors, bon, moi, je ne fais pas ça. Je ne fais pas le corps, je fais que le visage. Mais les réseaux sociaux, ils jouent clairement un énorme rôle là-dedans parce que... D'abord, l'information se diffuse infiniment mieux. Quand vous avez Kim Kardashian qui, effectivement, montre sa nouvelle silhouette, elle a 300 millions de followers, donc ça va beaucoup plus vite qu'avant les simples articles dans les magazines et puis le bouche à oreille. Donc l'information se diffuse beaucoup plus vite et puis c'est visuel, on voit des photos. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les réseaux sociaux, elles sont quasiment toutes retouchées. Sur ces grandes influenceuses américaines, on ne voit pas la petite cellulite et tout ça. Hein. Tout est bien lisse et c'est complètement retouché. Et puis il y a une façon dans les réseaux sociaux de voir le corps de manière morcelée, c'est-à-dire qu'on va voir juste les fesses ou alors juste les yeux, juste le nez, juste la bouche. Et peut-être que l'illusion qu'ils apportent, c'est de se dire bah tiens, je serais tellement plus belle avec les yeux de Bella Hadid, la bouche de Kylie Jenner, les fesses de Kim Kardashian.
Alors vous ne faites pas le corps, mais est-ce que justement ce morcellement du corps dans votre patientèle, il y a des gens qui arrivent avec juste une bouche et on vous montre cette bouche?
Oui, ça peut arriver. Alors, et en me disant, je voudrais avoir une bouche très ourlée. Et je pense que c'est une vraie erreur parce que, vous savez, on a besoin de globaliser l'information pour que ça soit harmonieux. Et il ne faut pas imaginer que la bouche que vous avez vue quelque part sur Instagram, ça va forcément vous aller. On peut faire une petite augmentation, mais vraiment changer complètement la bouche, c'est rarement très joli.
Oui, parce que vous travaillez sur un visage dans son ensemble. C'est pas une bouche ou juste un nez. C'est est-ce que cette bouche, elle ira avec ses yeux, avec cette forme de visage.
C'est l'harmonie
donc
dans les choses belles.
C'est l'erreur totale de
faire
comme
ça. Mais moi, ce qui me fait peur dans ce que vous êtes en train de dire, c'est que la mode, par définition, ça passe. Donc, si d'un seul coup, je me retrouve avec des Russian lips, là, des grosses lèvres bien pulpeuses, mais franchement, peut-être qu'à 30 ans, ça passe, j'en sais rien. J'ai pas d'avis sur la question, mais à 70, c'est raide quand même, non ?
Oui, alors ça, on sait bien qu'effectivement, les modes passent. Hein. Vous savez, c'était Yves Saint Laurent qui disait les modes passent, mais le style est éternel. Le problème en chirurgie plastique, c'est que les modes passent, mais les loupés, ils restent. Voilà, donc il faut éviter les extrêmes, si j'ai un conseil à donner, et penser sur le long terme, comment est-ce que ça va évoluer. Il y a une espèce de loi en chirurgie esthétique qui dit que plus vous changez un corps loin de sa forme d'origine, plus vous augmentez les complications et plus c'est difficile de revenir en arrière, voire même impossible.
C'est-à-dire les complications, qu'est-ce qui va se passer si on transforme trop et c'est quoi le risque?
Par exemple, pour le BBL, si vous injectez énormément de graisse, il peut y avoir des embolies graisseuses, si ce n'est pas fait par un chirurgien expérimenté, donc il y a des décès à cause de ça.
Ah oui, on se fait des grosses fesses et on y passe quoi.
Il y a eu des cas, donc il faut s'adresser à des gens qui sont très expérimentés.
Mais et surtout la BBL à 80 ans, vous imaginez? Le popotin de Kim Kardashian à 80 balais,
c'est surtout que la graisse va grossir. Quand vous prenez du poids, votre graisse du ventre, votre graisse des fesses. Donc cette graisse, si vous prenez du poids, ça grossit. Donc les jolies petites, les petites fesses que vous avez eues à 25 ans, si vous prenez 10 kilos, ce qui arrive souvent dans
c'est
la vie d'une femme.
C'est un popotin XXL.
Après, je pense qu'on va développer des techniques pour revenir en arrière, mais c'est jamais simple.
Et vous qui, donc, puisque l'objet de cette chronique, c'est la mode, est-ce que vous avez vu en esthétique des modes passées? Est-ce que, je sais pas, il y a 10 ans, tout le monde demandait un truc et puis personne ne le demande maintenant.
Enterré et regretté. Ouais.
Enterré et regretté, regardez, dans les années 80-90, la mode, c'était les très grosses poitrines. Vous vous souvenez de Pamela Anderson Alerte à Malibu?
Voilà, elle revenait. C'était pas du vrai?
Non, alors. Généralement, une fille est toute fine avec une énorme poitrine qui tient toute seule, c'est rarement du vrai. Et surtout quand ça continue à augmenter.
D'accord. Donc, elle revenait, c'est les hormones, peut-être.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc elle revenait tous les 5 ans avec des poitrines encore plus grosses. À la fin, ça en était complètement grotesque. Et d'ailleurs, elle a fini par revenir en arrière. Et c'est jamais simple parce que ça impose des cicatrices. Et maintenant, on est vraiment la mode des très grosses poitrines, c'est enterré. On est revenu sur des poitrines, des prothèses beaucoup plus petites parce qu'on sait que plus c'est petit, mieux ça va vivre et mieux ça va vieillir.
Et sur le visage, il y a des modes qui n'ont plus lieu d'être, je ne sais pas, des nez, des
congrès. Bah, des très grosses bouches. Ah si, remarquez, ça revient à la mode, les grosses bouches.
Si, ça revient à la mode, en fait. Vous savez, les petits nez en trompette qu'on faisait dans les années 70, maintenant ça revient vers la mode avec le barbinose.
Donc en finalement, c'est comme les pattes d'Ève, où il y a des trucs qui reviennent, comme ça, les chirurgies esthétiques, c'est pareil. On reviendra peut-être aux très gros seins dans 10 ans, c'est possible.
Non, alors ça, gardez, je pense pas. À moins qu'il y ait vraiment une évolution technique où on découvre des prothèses qui peuvent, où on peut mettre des très gros volumes qui tiennent. Mais bon, je pense que là, vraiment, c'est une mode qui est enterrée.
Bon, très bien. Quel conseil, juste dernier conseil rapide, vous donneriez à ceux et celles qui sont peut-être tentés là en ce moment? Ils ont vu un nez, une bouche, des fesses qui leur plaisent sur les réseaux sociaux. Avant de se lancer, qu'est-ce qu'il faut savoir?
Mon conseil, c'est, comme je disais tout à l'heure, éviter les extrêmes. Dites-vous que plus vous irez loin, plus ça sera difficile de revenir en arrière et les modes passent. Donc, la chirurgie esthétique, oui, mais avec modération.
Très bien. Merci beaucoup, docteur Marchak, pour ces bons conseils. On aime prendre un peu de hauteur avec vous sur ces sujets en matière d'esthétique. Allez, maintenant, on va passer à tout autre chose. On va passer au livre du jour avec Nathalie Le Breton. Nathalie, aujourd'hui, vous nous proposez de redécouvrir les contes traditionnels de notre enfance grâce à une sélection de livres qui se les réapproprient de façon ludique, poétique ou volontairement décalée, tant dans la forme que dans le fond.
Et oui, et c'est bien de changer un petit peu tout ça parce qu'il y a quand même des contes, notamment qui représentent la femme de façon totalement stéréotypé et on n'a pas envie de communiquer ça ni à nos fils ni à nos filles. Alors je commence avec Cendrillon et la pantoufle velue. Regardez, c'est sorti chez Talent Haut.
Génial.
Et c'est vrai qu'elle est kitsch à mort. Alors là, c'est super parce qu'on s'appuie complètement sur le texte classique, un petit peu revisité, un petit peu plus punchy. Alors sauf que rien ne se passe exactement comme le conte. D'abord, la marraine, elle va commencer à fabriquer une paire de chaussures. Normalement, vous vous souvenez, la pantoufle de verre.
Jolis souliers, oui.
Bon, là, les souliers, je vous les présente, ils sont légèrement velus, façon chaussures d'après-ski, bien connues.
C'est entre la pantoufle et le moon boots, hein, c'est ça?
Exactement. Et donc, la voilà partie à son bal pour essayer de trouver le prince qui va enfin la délivrer de tous ces actes terriblement laborieux et dont elle est esclave. Manque de peau, le carrosse est un navet et non pas un potiron. Et en plus, quand elle se met à danser, elle danse comme un pied, comme toutes les autres d'ailleurs. Mais pour arriver à faire un vol plané dans les bras du prince charmant, qui en gros a une haleine de putois, donc ça ne lui donne qu'une envie, c'est de repartir direct et très très loin. Et là, elle sort, évidemment, il n'y a plus de carrosse. En revanche, il y a des petites annonces de boulot, où là, on cherche des bodybuildeuses, on cherche des chasseuses de scorpions. Bref, toutes sortes de métiers formidables qui sont accessibles aux hommes comme aux femmes comme aux hommes, juste pour vous dire qu'on lutte contre les stéréotypes avec un livre comme ça. Et ce qu'on y apprend, c'est que Cendrillon, il vaut mieux qu'elle soit indépendante par elle-même.
Ouais, c'est pas con ça. Dites-moi, c'est la morale de l'histoire en fait qui change drastiquement, Nathalie?
Oui, alors là, c'était le cas, effectivement, mais quelquefois, non, parce que les contes, justement, sont extrêmement puissants dans ce qu'ils véhiculent. Alors, c'est le cas, vous vous souvenez, du loup et des 7 chevreaux. Je sais pas, vous vous souvenez de cette histoire, où en gros, il devait se maquiller pour aller choper les petits chevreaux, le méchant loup. Et ça, c'est complètement d'actualité parce qu'on parle ici des apparences, de la société du fake. Et attention les enfants, méfiez-vous de ce que vous rencontrez. En l'occurrence, là, l'ogre, il a bien l'air d'un ogre.
Ah oui.
Il est vraiment très, très disgracieux. Mais sauf que là, il a affaire à des jeunes qui sont des sacrés gredins, des biquets et non pas des chevreaux, qui sont évidemment équipés d'écrans pour repérer que la pâte a du vernis et que leur mère ne met jamais de vernis. Est-ce que c'est bien clair? Et l'autre qui revient un peu abrutis en leur disant c'est Noël, ils vont céder le cadeau de Noël, le Père Noël. Mais non, ils savent lire quand même. Donc ils savent que le 23, c'est pas le 24. Vous voyez, donc c'est effectivement revisité, mais on travaille beaucoup sur les apparences. Je peux vous dire que l'ogre va dans un institut, ça va vous dire quelque chose, qui s'appelle l'Institut Fauzère.
Oh, voilà. C'est chez le docteur Marchand.
Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais quand il va se déguiser, évidemment, il va chez les Marioles. Donc c'est vous dire qu'on rigole et que finalement, alors c'est bien fait parce que le récit est interrompu par des publicités comme ce qu'ils ont l'habitude d'avoir sur leurs écrans, quels qu'ils soient. Et là, c'est sur le four Nau. Le four
no. No,
voilà, évidemment, et les maîtresses de maison disent no, évidemment, et le Père Noël va se faire avoir parce que c'était l'ogre. Et donc tout est bien qui finit bien. Attention aux apparences, vous voyez, la morale reste la même.
Et oui, mais Nathalie, on voit bien quand même que c'est l'aspect comique de ces réappropriations. Mais vous parliez, je crois, aussi au début d'une réadaptation plus poétique, c'est ça ?
Mais oui, plus poétique parce que d'abord, c'est bien d'aller ouvrir les enfants à partir des contes sur l'esthétique. Justement, on y revient, sur les musées. Essayez d'aiguiser leur regard. Je vous propose La Belle au bois dormant au musée. C'est sorti chez Actes Sud Junior. Mmh. C'est toute une collection. C'est drôlement bien fait, vous allez comprendre. À gauche, sur la page de gauche, vous avez le texte classique. Et de l'autre côté, vous avez ou des peintures, alors ça va carrément, ou des œuvres d'art. Ça va des époques de dynasties égyptiennes, jusque ici avec Braque, par exemple, sur le XXe siècle. Donc l'histoire est très bien écrite, très simple. Vous voyez la fée de la Belle au bois dormant qui se transforme avec le faciès d'un bahut renaissance. Donc c'est l'histoire...
Mais ça reste l'histoire de la Belle au bois dormant quand même.
C'est l'histoire de la Belle au bois dormant avec des œuvres d'art de tous les pays. À la fin, vous avez la restitution de toutes les œuvres qui sont citées, parce qu'il y a une idée de cherche et trouve, avec des détails qui sont proposés. Vous savez, quand on parle de ces fées qui lui donnent plein de qualités à cette Belle au bois dormant, on lui propose d'être une marraine qui lui dit d'être raffinée. Et là, vous avez à côté l'image de Bastet, vous savez, la déesse chatte des Égyptiens, qui est juste extrêmement raffinée. Enfin voilà, donc c'est une ouverture à la culture, un conte traditionnel dans toute sa beauté et dans ce que ça dit sur le fond, et en même temps une ouverture effectivement au jugement critique, à l'esprit critique, et une invitation à aller avec nos enfants découvrir les musées, ce qui n'est pas rien.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir partagé toutes ces lectures. C'est autant d'idées cadeaux d'ailleurs dont on peut retrouver les références sur europe1.fr, à moins que l'on ne décide d'abonner nos enfants, nos neveux, nos nièces, nos petits-enfants, nos filleuls,
nos voisins, nos cousines,
auton.fr.